16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire réputés pour les dîners mondains qu'ils organisaient. Après la comtesse Potocka et Salvador Dali et Gala, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, d'un autre célèbre organisateur de dîners qui était filmé, c'est Thierry Ardisson.
Oui, car les plus jeunes qui nous écoutent ne le savent pas, mais il fut un temps, pas si lointain, où organiser un dîner n'était pas passible d'une amende ou d'une peine de prison, et on pouvait même être plus de 6. Chez Stéphane, le samedi soir, on était même parfois plus de 20. Comme il le dit lui-même avec une certaine nostalgie, mais sans jamais sacrifier l'élégance.
J'ai été très visité un certain temps. Alors bon.
Derrière une apparente décontraction, les codes étaient très stricts. Armando, le majordome portoricain, prenait les manteaux, faisait promettre à Stéphane de lui rendre son passeport. Stéphane lui disait
« No tengo tiempo ».
Le repas était servi à l'assiette par du personnel brésilien torse nu. Le dress code était généralement smoking jockstrap pour les messieurs, robe fourreau tanga pour les dames. À l'entrée, il y avait un mot de passe secret à donner.
J'adore la quenelle.
C'est bon, entrez. Quand tous les convives étaient là, Stéphane tapait dans ses mains, on passait à table. C'était toujours un peu guindé au début, mais après quelques gorgées de pétrus, ça se terminait généralement en bataille générale de gazpacho que Stéphane admirait depuis sa chaise percée, ornée de cristaux Swarovski. C'était charmant. Pour tout dire, le seul rival de Stéphane en matière de dîner mondain, au début des années 2000, c'était Thierry Ardisson. Célèbre personnalité télé dont les dîners avaient quelque chose de plus que ceux de Stéphane, David, vous avez deviné.
La cocaïne, donc je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle.
Non, ils étaient filmés, c'était ça le truc en plus. Ardisson réunissait les stars du showbiz chez lui, au 93 Faubourg Saint-Honoré, qui était aussi le nom de l'émission diffusée à partir de 2003 sur Paris Première. Chanteurs, actrices, sportifs, tous s'y bousculent, on y mange bien évidemment, on n'oublie pas non plus d'y boire, ce qui permet aux langues de se délier plus facilement. Des privilégiés qui se font servir des plats gastronomiques dans un opulent appart du 8e, ça aurait pu choquer. Eh bien non, ça a fasciné les téléspectateurs pendant 4 saisons. Paris réussi pour Thierry Ardisson. Pourtant, la star cathodique n'est pas née en élégant costume noir dans le 8e arrondissement. Thierry Ardisson vient au monde en 1949 à Bourganeuf, dans la Creuse. Sa maman, Juliette, est femme au foyer et son père Victor est ingénieur dans le BTP. La Creuse, c'est parce que papa travaille sur un chantier dans la région avant d'être muté en Algérie pour la restauration d'une base militaire. Thierry, je vous le dis tout de suite, n'a pas une enfance très heureuse. Hein. Déménagement fréquent, pas le temps de se faire des copains, pas de maison d'enfance. Je ne comprenais pas ce que je foutais là. Je pensais être tombé dans la mauvaise famille, qu'on avait échangé les bébés à la maternité, raconte-t-il. Des débuts laborieux qui lui donnent la niaque au petit Thierry qui, à 17 ans, le bac en poche, se barre et devient DJ dans un club de Join-les-Pins, le Whisky à gogo. Bon, alors Thierry s'y connaît pas tant que ça en musique, mais il aime les défis et très vite il trouve ses marques. Je vous livre ce beau souvenir, assez émouvant. Je mettais le disque et j'allais baiser les filles dans la pinède. Je me dépêchais, je courais comme un con, j'éjaculais rapidement, un vrai quickie, et au retour, je mettais un bon vieux tube soul. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, surtout Thierry Ardisson, et surtout dans les années 70. Il raconte que c'est durant ces années-là que se forge son caractère et ses goûts, la chance aux rencontres. Là encore, je vais citer Thierry, mais vu l'heure, Stéphane, je vous demanderai de remplacer les mots inconvenants par d'autres plus imagés, moins crus. Vous êtes prêts? On y va. Un jour, j'ai rencontré un mec qui organisait des partous auxquels j'assistais sans participer. Je voyais des mecs se faire
ding ding dong
par des types qui avaient des
quenelles
énormes. Et il y en avait un qui était allongé, un autre arrivé avec un
coq au vin
de 25 cm. On se disait, ça ne passera jamais, mais ça passait. Et sous les applaudissements des convives, quand tu as 16 ans et que tu vois ça, tu es blindé pour la suite. Au début des années 70, Thierry épouse Christiane et commence sa carrière dans la publicité. Au passage, il tente de se suicider quand il découvre que Christiane le trompe. Il s'ouvre les veines, mais sera sauvé au dernier moment. La situation s'étant visiblement arrangée, ils s'échappent tous les deux à Bali en vacances et là rencontrent un milliardaire qui les initie au paradis artificiel. Oui, si quelqu'un proposait le scénario de la vie de Thierry Ardisson à Netflix, les gars diraient « Désolé, c'est pas assez réaliste ». Et pourtant, tout est vrai. De l'héroïne à la cocaïne, Thierry teste tout. Oui, j'ai connu la easy life, dit-il. On était à Bali, je sniffais de la super poudre toute la journée sans m'en rendre compte. La défonce commençait au petit déjeuner avec les omelettes aux champignons hallucinogènes. J'étais du matin au soir occupé à me défoncer.
Oh, la belle vie.
Logiquement, à son retour, Thierry devient concepteur-rédacteur dans la pub. L'idée du spot qui dure 8 secondes pour permettre aux annonceurs à petit budget de se faire diffuser en télé, c'est lui. Des slogans forts comme « Quand c'est trop, c'est tropico »,« La paire, il n'y en a pas deux » ou « Vas-y, vas-a » ou encore « Ovomaltine, c'est de la dynamite. C'est aussi Thierry Ardisson. La création de l'agence Business en 78, toujours lui, avec deux associés. Bourré d'idées et d'ambitions, il s'intéresse aussi aux médias. Il y a d'abord cette interview mythique de Yannick Noah qu'il réalise pour le magazine Rock'n'Folk, où le tennisman révèle qu'il fume du hash et que les joueurs se dopent aux amphétamines. Ses débuts officiels d'animateur, Ardisson les doit à Marie-France Brière, alors responsable des variétés sur TF1, qui lui propose d'adapter à l'écran son concept d'interview du moment. Les invités sont soumis à un interrogatoire policier musclé. Il enchaînera avec Scoop à la Une avant de rencontrer Catherine Barma. C'est Marie-France Brière qui joue l'entremetteuse. À l'époque, Barma trouve que Ardisson est nul et elle est persuadée qu'il couche simplement avec Marie-France. Mais entre eux, le courant va vite passer. Elle devient son coach en télé et lance véritablement sa carrière. On leur doit notamment Bain de minuit, l'émission Underground est branchée, tournée depuis la célèbre boîte de nuit Les Bains Douches à Paris, Lunettes Noires pour Nuit Blanche depuis le Palace et l'iconique Tout le monde en parle sur France 2. Le style Ardisson, c'est la provoque, l'insolence et des interviews aux thématiques inoubliables. L'interview nulle, l'interview mensonge, l'interview psy, dernière chance, alerte rose. Des jalons qui permettront plus tard à d'autres animateurs d'aller encore plus loin dans le surréalisme, comme par exemple Stéphane Bern qui a dernièrement innové en créant l'interview que l'intervieweur lui-même ne comprend pas.
Votre livre se construit comme une fuite de ville en ville où elle a vécu. C'est comme une fugitive qui se cherche de partout.
Oui, Stéphane, Thierry Ardisson fut pour vous un modèle, oui. Je le sens bien, d'inventivité et de courage aussi. Hein, de courage car la séquence est culte aujourd'hui, mais il en fallait pour demander à l'époque à Michel Rocard si, selon lui, Sucé s'était trompé. L'ancien Premier ministre n'avait pas répondu, emportant son point de vue sur la question dans la tombe. En 2006, Tout le monde en parle s'arrête parce que France Télévisions demande à Thierry de choisir entre France 2 et Paris Première, chaîne sur laquelle il produit d'autres émissions. Il choisit Paris Première et rempile donc pour une quatrième saison de 93 Faubourg Saint-Honoré. Petit fun fact pour David, si les dîners sont réalisés par des grands chefs étoilés comme Piège ou Fréchon, Ardisson, lui, s'en fout de la bouffe. Des tacos lui iraient tout aussi bien. Moi, je ne fais jamais de dîner en réalité, confie-t-il. D'ailleurs, les seuls dîners que j'ai faits, c'est quand c'était payé par Paris Première. Mais je ne suis pas du tout branché gastro. Ce qui m'amusait dans ce dîner, c'est surtout de faire bien manger et bien boire les invités pour qu'ils me racontent des trucs, c'est tout. Faire boire ses convives pour obtenir des révélations croustillantes, c'est la combine classique. Nous-mêmes, quand on fait une petite soirée team building, on fait tout le temps boire Clémentine qui démarre au quart de tour.
Je vous ai raconté que c'est un médecin de la Légion étrangère qui m'a sauvé.
Oui, tu nous as dit déjà, tu nous as raconté. 93 Faubourg Saint-Honoré aussi a eu son lot de dérapages, vous en doutez, sachant que ça picolait à tout va et que certains convives ne se gênaient pas trop pour allumer une clope. C'était évidemment une autre époque, le CSA était moins regardant. Et puis, il n'y avait pas que l'alcool qui faisait une bonne émission, le casting était la clé. Pour le plan de table, c'était la règle classique des dîners réussis, Stéphane, hein, une pute, un archevêque. C'est comme ça qu'on crée une ambiance. Et puis, derrière l'apparente spontanéité, il y avait le génie d'Ardisson pour scénariser tout ça. Un thème qui jaillit soudain dans la conversation, un invité qui arrive en retard. Beaucoup de choses étaient en fait prévues en amont pour donner du relief au dîner. Alors évidemment, en quatre saisons, il y a eu des ratés qui n'arrivaient jamais, au contraire, chez Stéphane, qui avait toujours le don de relancer la conversation sur un sujet intéressant comme les chiens de la reine d'Angleterre.
Alors, je sais qu'elle a deux dorgies, un mélange de corgi qui est de Welsh Pembroke Corgi, Stéphane. C'est la race de... Oui. Ce sont des chiens de berger gallois.
Oui.
Et qu'on a mixé avec des Dachshund, qui est l'autre nom de Tekel.
Oui, en fait, quelqu'un veut du clafoutis ? Quelqu'un prend du clafoutis, Stéphane ? Oh, vraiment !
Des Dachshund qui arrivaient de Saint-Denis.
Oui, oui, bah, je vais y aller. Il y a mon Hubert qui m'attend. Oui,
qui
au revoir, il est là, 3 minutes, je descends.
Au revoir, Mathieu. Oui, c'est bon, on a compris. Oh là là. C'était passionnant, tout ce qui me concerne
c'était
est faux, vrai. Évidemment.
Ah oui, mais tout en ce qui concerne Ardisson est vrai, hein. Et toutes les concerne... citations sont vraies.
Oui, c'est fou quand même.
Et dans sa vie est dingue, et vous savez qu'il a un nouveau projet, paraît-il.
Ah
oui, il a un nouveau projet, il va revenir.
Ah oui, il veut faire parler, revivre les morts.
Exactement.
Ou les faire parler, oui.
Hôtel du temps, un concept d'interview fiction avec des personnalités disparues. Comme ça, on va pouvoir entendre, je ne sais pas, Jean Gabin, Lynn Renault. Ah non, enfin bref, non, Jean Gabin, enfin des gens morts.
Oui, c'est ça.
Europe 1, historiquement vôtre.